En sortant du café riche, Jean de Servigny dit à Léon Saval « Si tu veux, nous irons à pied, le temps est trop beau pour prendre un fiacre. » Et son ami répondit « On ne demande pas mieux. » Jean reprit « Il est à peine 11 heures, nous arriverons beaucoup avant minuit, allons donc doucement. » Une cohue agitée grouillait sur le boulevard, cette foule des nuits d'été qui remue, boit, murmure et coule comme un fleuve, pleine de bien-être et de joie. De place en place, un café jetait une grande clarté sur le tas de buveurs assis sur le trottoir, devant les petites tables couvertes de bouteilles et de verres, encombrant le passage de leur foule pressée. Et sur la chaussée, les fiacres aux yeux rouges, bleus ou verts, passaient brusquement dans la lueur vive de la devanture illuminée, montrant une seconde la silhouette maigre et trottinante du cheval, le profil élevé du cocher et le coffre sombre de la voiture. Ceux de l'urbaine faisaient des taches claires et rapides avec leurs panneaux jaunes, frappés par la lumière. Les deux amis marchaient d'un pas lent, un cigare à la bouche, en habit, le pardessus sur le bras, une fleur à la boutonnière et le chapeau un peu sur le côté, comme on le porte quelquefois par nonchalance, quand on a bien dîné et quand la brise est tiède. Ils étaient liés depuis le collège par une affection étroite, dévouée, solide. Jean de Servigny, petit, svelte, un peu chauve, un peu frêle, très élégant, la moustache frisée, les yeux clairs, la lèvre fine, était un de ces hommes de nuit qui semblent nés et grandis sur le boulevard, infatigable bien qu'il eût toujours l'air exténué, vigoureux bien que pâle, un de ces minces parisiens en qui le gymnase, l'escrime, les douches et les tuves ont mis une force nerveuse et factice. Il était connu par ses noces autant que par son esprit, par sa fortune, par ses relations, par cette sociabilité, cette amabilité, cette galanterie mondaine spéciale à certains hommes. Vrai parisien d'ailleurs, léger, sceptique, changeant, entraînable, énergique et irrésolu, capable de tout et de rien, égoïste par principe et généreux par élan. Il mangeait ses rentes avec modération et s'amusait avec hygiène. Indifférent et passionné, il se laissait aller, se reprenait sans cesse, combattu par des instincts contraires et cédant à tous pour obéir en définitive à sa raison de viveur dégourdi, dont la logique de girouette consistait à suivre le vent et à tirer profit des circonstances sans prendre la peine de les faire naître. Son compagnon, Léon Saval, riche aussi, était un de ces superbes colosses qui font se retourner les femmes dans les rues. Il donnait l'idée d'un monument fait homme, d'un type de la race, comme ces objets modèles qu'on envoie aux expositions. Trop beau, trop grand, trop large, trop fort, il pêchait un peu par excès de tout, par excès de qualité. Il avait fait d'innombrables passions. Il demanda, comme ils arrivaient devant le vaudeville, « As-tu prévenu cette dame que tu allais me présenter chez elle ?» Servigny se mit à rire. « Prévenir la marquise au mardi ? Fais-tu prévenir un cocher d'omnibus que tu monteras dans la voiture au coin du boulevard ?» Saval, alors un peu perplexe, demanda « Mais qu'est-ce donc au juste que cette personne ?» Et son ami répondit « Une parvenue, une rastaquère, une drôle charmante, sortie on ne sait d'où, apparue un jour on ne sait comment dans le monde des aventuriers, et sachant y faire figure. Que nous importe d'ailleurs, on dit que son vrai nom, son nom de fille, qu'elle reste fille à tous les titres, sauf au titre innocence, est Octavie Bardin, d'où Obardi, en conservant la première lettre du prénom, et en supprimant la dernière du nom. C'est d'ailleurs une aimable femme dont tu seras inévitablement l'amant, toi, de par ton physique. On n'introduit pas Hercule chez Messaline sans qu'il se produise quelque chose. J'ajoute cependant que si l'entrée est libre en cette demeure, comme dans les bazars, on n'est pas strictement forcé d'acheter ce qui se débite dans la maison. On y tient l'amour et les cartes, mais on ne vous contraint ni à l'un ni aux autres. La sortie aussi est libre. Elle s'installa dans le quartier de l'Étoile, quartier suspect, voici 3 ans, et ouvrit ses salons à cette écume des Contilans qui vient exercer à Paris ses talents divers, redoutables et criminels. J'allais chez elle, comment, je ne sais plus. J'y allais, comme nous allons tous là-dedans, parce qu'on y joue, parce que les femmes sont faciles et les hommes malhonnêtes. J'aime ce monde de flibustiers à décorations variées, tous étrangers, tous nobles, tous titrés, tous inconnus à leurs ambassades, à l'exception des espions. Tous parlent de l'honneur à propos de bottes, citent leurs ancêtres à propos de rien, racontent leur vie à propos de tout, hableurs, menteurs, filous dangereux comme leurs cartes, trompeurs comme leur nom, braves, parce qu'il le faut, à la façon des assassins, qui ne peuvent dépouiller les gens qu'à la condition d'exposer leur vie. C'est l'aristocratie du bagne, enfin. Je les adore, ils sont intéressants à pénétrer, intéressants à connaître, amusants à entendre. Souvent spirituels, ou jamais banals, comme des fonctionnaires français. Leurs femmes sont toujours jolies, avec une petite saveur de coquinerie étrangère, avec le mystère de leur existence passée, passée peut-être à moitié dans une maison de correction. Elles ont en général des yeux superbes et des cheveux incomparables, le vrai physique de l'emploi, une grâce qui grise, une séduction qui pousse aux folies, un charme malsain, irrésistible. Ce sont des conquérantes à la façon des routiers d'autrefois, des rapaces, de vraies femelles d'oiseaux de proie. Je les adore aussi. La marquise Aumardi est le type de ces drôlesses élégantes. Mûre et toujours belle, charmeuse et féline, on la sent vicieuse jusque dans les moelles. On s'amuse beaucoup chez elle, on y joue, on y danse, on y soupe, on y fait enfin tout ce qui constitue les plaisirs de la vie mondaine. Léon Saval demanda « As-tu été ou es-tu son amant ?» Servigny répondit « Bon, je ne l'ai pas été, je ne le suis pas, je ne le serai point. Moi, je vais surtout dans la maison pour la fille. » « Ah, elle a une fille. »« Si elle a une fille, oh, une merveille, mon cher. »« C'est aujourd'hui la principale attraction de cette caverne. »« Grande, magnifique, mûre à point, 18 ans, aussi blonde que sa mère est brune. » Toujours joyeuse, toujours prête pour les fêtes, toujours riant à pleine bouche et dansant à corps perdu. Qui l'aura ou qui l'a eu, on ne sait pas. Nous sommes 10 qui attendons, qui espérons. Une fille comme ça, entre les mains d'une femme comme la marquise, c'est une fortune. Et elle joue serré, les deux gaillardes. On n'y comprend rien. Elles attendent peut-être une occasion. « Meilleur que moi. Mais moi, je te réponds bien que je la saisirai, l'occasion, si je la rencontre. » Cette fille, Yvette, me déconcerte absolument d'ailleurs. C'est un mystère. Si elle n'est pas le monstre, l'astuce et la perversité le plus complet que j'ai jamais vu, elle est certes le phénomène d'innocence le plus merveilleux qu'on puisse trouver. Elle vit dans ce milieu infâme avec une aisance tranquille et triomphante, admirablement scélérate ou naïve. Merveilleux rejeton d'aventurière, poussée sur le fumier de ce monde-là comme une plante magnifique nourrie de pourriture, ou bien fille de quelque homme de haute race, de quelque grand artiste, ou de quelque grand seigneur, de quelque prince, ou de quelque roi tombé un soir dans le lit de la mer. Oh, on ne peut comprendre ce qu'elle est ni ce qu'elle pense. Mais tu vas la voir. Saval se mit à rire et dit: Tu en es amoureux? Non, non, je suis sur les rangs, ce qui n'est pas la même chose. Je te présenterai d'ailleurs mes coprétendants les plus sérieux. Mais j'ai des chances marquées. J'ai de l'avance, on me montre quelques faveurs. Saval répéta: Tu es amoureux? Non, elle me trouble, oui, me séduit et m'inquiète, m'attire et m'effraie. Je me méfie d'elle comme d'un piège, et j'ai envie d'elle comme on a envie d'un sorbet quand on a soif. Je subis son charme, et je ne l'approche qu'avec l'appréhension qu'on aurait d'un homme soupçonné d'être un adroit voleur. Près d'elle, j'éprouve un entraînement irraisonné vers sa candeur possible, et une méfiance très raisonnable contre sa rouerie non moins probable. Je me sens en contact avec un être anormal, en dehors des règles naturelles, exquis ou détestable, je ne sais pas. Saval prononça pour la troisième fois: Je te dis que tu es amoureux. Tu parles d'elle avec une emphase de poète et un lyrisme de troubadour. Allons, descends-toi, tâte ton cœur et avoue. Servigny fit quelques pas sans rien répondre, puis reprit: Bon, c'est possible après tout. Dans tous les cas, elle me préoccupe beaucoup. Oui, oh, je suis peut-être amoureux. J'y songe trop, je pense à elle en m'endormant et aussi en me réveillant. C'est assez grave. Son image me suit, me poursuit, m'accompagne sans cesse, toujours devant moi, autour de moi, en moi. Est-ce de l'amour, cette obsession physique? Sa figure est entrée si profondément dans mon regard que je la vois sitôt que je ferme les yeux. J'ai un battement de cœur chaque fois que je l'aperçois, je ne le nie point. Donc je l'aime, mais drôlement. Je la désire avec violence, et l'idée d'en faire ma femme me semblerait une folie, une stupidité, une monstruosité. J'ai un peu peur d'elle aussi, une peur d'oiseau sur qui plane un épervier. Et je suis jaloux d'elle encore, jaloux de tout ce que j'ignore dans ce cœur incompréhensible. Et je me demande toujours: est-ce une gamine charmante ou une abominable coquine? Elle dit des choses à faire frémir une armée, mais les perroquets aussi. Elle est parfois imprudente ou impudique à me faire croire à sa candeur immaculée, et parfois naïve, d'une naïveté invraisemblable à me faire douter qu'elle ait jamais été chaste. Elle me provoque, m'excite comme une courtisane et se garde en même temps comme une vierge. Elle paraît m'aimer et se moque de moi. Elle s'affiche en public comme si elle était ma maîtresse et me traite dans l'intimité comme si j'étais son frère ou son valet. Parfois, je m'imagine qu'elle a autant d'amants que sa mère. Parfois, je me figure qu'elle ne soupçonne rien de la vie. Mais rien, entends-tu? C'est d'ailleurs une liseuse de romans enragée. Je suis, en attendant mieux, son fournisseur de livres. Elle m'appelle son bibliothécaire. Chaque semaine, la librairie nouvelle lui adresse de ma part tout ce qui a paru, et je crois qu'elle lit tout, pêle-mêle. Ça doit faire dans sa tête une étrange salade. Cette bouillie de lecture est peut-être pour quelque chose dans les allures singulières de cette fille. Quand on contemple l'existence à travers 15 000 romans, on doit la voir sous un drôle de jour et se faire sur les choses des idées assez baroques. Quant à moi, j'attends. Il est certain d'un côté que je n'ai jamais eu pour aucune femme le béguin que j'ai pour celle-là. Il est encore certain que je ne l'épouserai pas. Donc, si elle a eu des amants, j'augmenterai l'addition. Si elle n'en a pas eu, bien, je prends le numéro, hein, comme au tramway. Le cas est simple. Elle ne se mariera pas, assurément. Qui donc épouserait la fille de la marquise Aubardy, d'Octavie Bardoy? Personne, pour mille raisons. Où trouverait-on un mari? Dans le monde, ou jamais. La maison de la mère est une maison publique dont la fille attire la clientèle. On n'épouse pas dans ces conditions-là. Dans la bourgeoisie, encore moins. Et d'ailleurs, la marquise n'est pas femme à faire de mauvaises opérations. Elle ne donnerait définitivement Yvette qu'à un homme de grande position qu'elle ne découvrira pas. Dans le peuple, alors, encore moins. Donc, pas d'issue. Cette demoiselle-là n'est ni du monde, ni de la bourgeoisie, ni du peuple. Elle ne peut entrer par une union dans aucune de ces classes de la société. Elle appartient par sa mère, par sa naissance, par son éducation, par son hérédité, par ses manières, par ses habitudes à la prostitution dorée. Elle ne peut lui échapper, à moins de se faire religieuse, ce qui n'est guère probable, étant donné ses manières et ses goûts. Elle n'a donc qu'une profession possible, l'amour. Elle y viendra, à moins qu'elle ne l'exerce déjà. Elle ne saurait fuir sa destinée. De jeune fille, elle deviendra fille, tout simplement. Je voudrais bien être le pivot de cette transformation. J'attends. Les amateurs sont nombreux. Tu verras là un Français, monsieur de Bellevigne, un Russe appelé Kravarov, et un Italien, le chevalier Valréali, qui ont posé nettement leur candidature et qui manœuvrent en conséquence. Nous comptons en outre autour d'elle beaucoup de maraudeurs de moindre importance. La marquise guette, mais je crois qu'elle a des vues sur moi. Elle me sait fort riche et elle possède moins les autres. Son salon est d'ailleurs le plus étonnant que je connaisse dans ce genre d'exposition. On y rencontre même des hommes fort bien, puisque nous y allons. Et nous ne sommes pas les seuls. Quant aux femmes, elle a trouvé, ou plutôt elle a trié, ce qu'il y a de mieux dans la hotte aux pilleuses de bourse. Où les a-t-elle découvertes? On l'ignore. C'est un monde à côté de celui des vrais drôlesses, à côté de la bohème, à côté de tout. Elle a eu d'ailleurs une inspiration de génie, c'est de choisir spécialement les aventurières en possession d'enfants, de filles principalement, de sorte qu'un imbécile se croirait là chez des honnêtes femmes. Ils avaient atteint l'avenue des Champs-Élysées. Une brise légère passait doucement dans les feuilles, glissait par moments sur les visages comme les souffles doux d'un éventail géant balancé quelque part dans le ciel. Des ombres muettes erraient sous les arbres. D'autres, sur les bancs, faisaient une tache sombre. Et ces ombres parlaient très bas, comme si elles se fussent confiées des secrets importants ou honteux. Servigny reprit. Tu ne te figures pas la collection de titres de fantaisie qu'on rencontre dans ce repaire. À ce propos, tu sais que je vais te présenter sous le nom de Comte Saval. Saval tout court serait mal vu, très mal vu. Son ami s'écria: Ah non, 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 par exemple, non, je ne veux pas qu'on me suppose, même un soir, même chez ces gens-là, le ridicule de vouloir m'affubler d'un titre. Ah non, non! Servigny se mit à rire. Et tu es stupide! Moi, là-dedans, on m'a baptisé le duc de Servigny. Je ne sais ni comment ni pourquoi. Toujours est-il que je suis et que je demeure monsieur le duc de Servigny, sans me plaindre et sans protester. Ça ne me gêne pas. Sans cela, je serais affreusement méprisé. Mais Saval ne se laissait point convaincre. Toi, tu es noble, ça peut aller. Pour moi, non, non, je resterai le seul roturier du salon. Tant pis ou tant mieux. Ce sera mon signe de distinction et ma supériorité. Servigny s'entêtait. Mais je t'assure que ce n'est pas possible, mais pas possible, entends-tu? Cela paraîtrait presque monstrueux. Tu ferais l'effet d'un chiffonnier dans une réunion d'empereurs. Laisse-moi faire, je te présenterai comme le vice-roi du Haut-Mississippi et personne ne s'étonnera. Quand on prend les grandeurs, on en saurait trop prendre. Non, encore une fois, je ne veux pas. Soit. Mais en vérité, je suis bien sot de vouloir te convaincre. Je te défie d'entrer là-dedans sans qu'on te décorde un titre comme on donne aux dames un bouquet de violettes au seuil de certains magasins. Ils tournèrent à droite dans la rue de Berry, montèrent au premier étage d'un bel hôtel moderne et laissèrent aux mains de quatre domestiques en culottes courtes leurs pardessus et leurs cannes. Une odeur chaude de fête, une odeur de fleurs, de parfums, de femmes alourdissait l'air. Et un grand murmure confus et continu venait des pièces voisines qu'on sentait pleines de monde. Une sorte de maître de cérémonie, haut, droit, ventru, sérieux, la face encadrée de favoris blancs, s'approcha du nouveau venu en demandant avec un court et fier salut: Que y dois-je annoncer? Servigny répondit: Monsieur Saval. Alors, d'une voix sonore, l'homme ouvrant la porte cria dans la foule des invités: Monsieur le duc de Servigny, monsieur le baron Saval. Le premier salon était peuplé de femmes. Ce qu'on apercevait d'abord, c'était un étalage de seins nus au-dessus d'un flot d'étoffes écarlates. La maîtresse de maison, debout, causant avec trois amis, se retourna et s'en vint d'un pas majestueux, avec une grâce dans la démarche et un sourire sur les lèvres. Son front étroit, très bas, était couvert d'une masse de cheveux d'un noir luisant, pressé comme une toison, mangeant même un peu des tempes. Elle était grande, un peu trop forte, un peu trop grasse, un peu mûre, mais très belle, d'une beauté lourde, chaude, puissante. Sous ce casque de cheveux qui faisait rêver, qui faisait sourire, qui la rendait mystérieusement désirable, s'ouvraient des yeux énormes, noirs aussi. Le nez était un peu mince, la bouche grande, infiniment séduisante, faite pour parler et pour conquérir. Son charme le plus vif était d'ailleurs dans sa voix. Elle sortait de cette bouche comme l'eau sort d'une source, si naturelle, si légère, si bien timbrée, si claire, qu'on éprouvait une jouissance physique à l'entendre. C'était une joie pour l'oreille d'écouter les paroles souples couler de là avec une grâce de ruisseau qui s'échappe, et c'était une joie pour le regard de voir s'ouvrir pour leur donner passage ces belles lèvres un peu trop rouges. Elle tendit une main à Servigny, qui la baisa, et laissant tomber son éventail au bout d'une chaînette d'or travaillée, elle donna l'autre à Saval en lui disant: Soyez le bienvenu, baron, tous les amis du duc sont chez eux ici. Puis elle fixa son regard brillant sur le colosse qu'on lui présentait. Elle avait sur la lèvre supérieure un petit duvet noir, un soupçon de moustache, plus sombre quand elle parlait. Elle sentait bon, une odeur forte, grisante, quelques parfums d'Amérique ou des Indes. D'autres personnes entraient, marquis, comtes ou princes. Elle dit à Servigny avec une gracieuseté de mère: Vous trouverez ma fille dans l'autre salon. Amusez-vous, messieurs, la maison vous appartient. Et elle les quitta pour aller au dernier venu et jetant à Saval ce coup d'œil souriant et fuyant qu'ont les femmes pour faire comprendre qu'on leur a plu. Et Servigny saisit le bras de son ami. « Je vais te piloter, dit-il. Ici, tu vois, dans le salon où nous sommes, les femmes, c'est le temple de la chair, fraîche ou non. Objet d'occasion, valant le neuf, et même mieux. Côté chair, à prendre un bail. À gauche, le jeu. Là, c'est le temple de l'argent. Tu connais ça. Au fond, on danse. C'est le temple de l'innocence, le sanctuaire, le marché aux jeunes filles. C'est là qu'on expose sous tous les rapports les produits de ces dames. On consentirait même à des unions légitimes. C'est l'avenir, l'espérance de nos nuits. Et c'est aussi ce qu'il y a de plus curieux dans ce musée des maladies morales. Ces fillettes dont l'âme est disloquée comme les membres des petits clowns issus de saltimbanques. Allons les voir. Il saluait à droite, à gauche, galant, un compliment aux lèvres, couvrant d'un regard vif d'amateur chaque femme décolletée qu'il connaissait. Un orchestre au fond du second salon jouait une valse, et ils s'arrêtèrent sur la porte pour regarder. Une quinzaine de couples tournaient, les hommes graves, les danseuses avec un sourire figé sur les lèvres. Elles montraient beaucoup de peau comme leur mère, et le corsage de quelques-unes n'étant soutenu que par un mince ruban qui contournait la naissance du bras, on croyait apercevoir par moments une tache sombre sous les aisselles. Soudain, du fond de l'appartement, une grande fille s'élança, traversant tout, heurtant les danseurs, et relevant de sa main gauche la queue démesurée de sa robe. Elle courait à petits pas rapides comme courent les femmes dans les foules, et elle cria « Ah, voilà Muscade! Bonjour Muscade !» Elle avait sur les traits un épanouissement de vie, une illumination de bonheur. Sa chair blanche, dorée, une chair de rousse, semblait rayonner, et l'amas de ses cheveux tordus sur sa tête, des cheveux cuits au feu, des cheveux flambants, pesaient sur son front, chargeaient son cou flexible, encore un peu mince. Elle paraissait faite pour se mouvoir, comme sa mère était faite pour parler, tant ses gestes étaient naturels, nobles et simples. Il semblait qu'on éprouvait une joie morale et un bien-être physique à la voir marcher, remuer, pencher la tête, lever le bras. Elle répétait « Ah, Muscade, bonjour Muscade !» Servigny lui secoua la main violemment comme à un homme et il lui présenta « Mademoiselle Yvette, mon ami le baron Saval !» Elle secoua l'inconnu puis le dévisagea. « Bonjour monsieur, êtes-vous tous les jours aussi grand que ça ?» Servigny répondit de ce ton gouailleur qu'il avait avec elle, pour cacher ses méfiances et ses incertitudes. « Non, mademoiselle, il a pris ses plus fortes dimensions pour plaire à votre maman qui aime les masses. » Et la jeune fille prononça avec un sérieux comique. « Très bien, alors, mais quand vous viendrez pour moi, vous diminuerez un peu, s'il vous plaît. Je préfère les entre-deux. » Tenez, Muscade est bien dans mes proportions. » Et elle tendit au dernier venu sa petite main grande ouverte. Puis elle demanda « Est-ce que vous dansez, Muscade? Voyons un tour de valse. » Sans répondre d'un mouvement rapide, emporté, Servigny lui enlaça la taille et ils disparurent aussitôt avec une furie de tourbillon. Ils allaient plus vite que tous, tournaient, tournaient, couraient en pivotant éperdument, liés à ne plus faire qu'un, et le corps droit, les jambes presque immobiles, comme si une mécanique invisible cachée sous leurs pieds les eût fait voltiger ainsi. Ils paraissaient infatigables. Les autres danseurs s'arrêtaient peu à peu. Ils restèrent seuls, valsant indéfiniment. Ils avaient l'air de ne plus savoir où ils étaient, ni ce qu'ils faisaient, d'être partis bien loin du bal dans l'extase. Et les musiciens de l'orchestre allaient toujours, les regards fixés sur ce couple forcené, et tout le monde le contemplait. Et quand il s'arrêta enfin, on applaudit. Elle était un peu rouge à présent, avec des yeux étranges, des yeux ardents et timides, moins hardis que tout à l'heure, des yeux troublés, si bleus, avec une pupille si noire, qu'il ne semblait point naturel. Servigny paraissait gris. Il s'appuya contre une porte pour reprendre son aplomb. Elle lui dit « Pas de tête, mon pauvre Muscade, je suis plus solide que vous. » Il souriait d'un air rire nerveux, et il la dévorait du regard avec des convoitises bestiales dans l'œil et dans le pli des lèvres. Elle demeurait devant lui, laissant en plein, sous la vue du jeune homme, sa gorge découverte que soulevait son souffle. Elle reprit « Dans certains moments, vous avez l'air d'un chat qui va sauter sur les gens. Allez, voyons, donnez-moi votre bras, et allons retrouver votre ami. » Sans dire un mot, il offrit son bras et ils traversèrent le grand salon. Saval n'était plus seul. La marquise Aubardy l'avait rejoint. Elle lui parlait de choses mondaines, de choses banales, avec cette voix ensorcelante qui grisait. Et le regardant au fond de la pensée, elle semblait lui dire d'autres paroles que celles prononcées par sa bouche. Quand elle aperçut Servigny, son visage aussitôt prit une expression souriante et se tournant vers lui. « Vous savez, mon cher duc, que je viens de louer une villa à Bougival pour y passer 2 mois. Je compte que vous y viendrez m'y voir. Amenez votre ami. Tenez, je m'y installe lundi. Voulez-vous venir dîner tous les 2 samedi prochain? Je vous garderai toute la journée du lendemain. » Servigny tourna brusquement la tête vers Yvette. Elle souriait, tranquille, sereine, et elle dit avec une assurance qui n'autorisait aucune hésitation « Certainement que Muscat viendra dîner samedi. Ce n'est pas la peine de le lui demander. Nous ferons un tas de bêtises à la campagne. » Il crut voir une promesse naître dans son sourire et saisir une intention dans sa voix. Alors la marquise releva ses grands yeux noirs sur Saval. « Et vous aussi, baron ?» Et son sourire à elle n'était point douteux. Il s'inclina. « Oh, je serais trop heureux, madame. » Yvette murmura avec une malice naïve ou perfide. « Nous allons scandaliser tout le monde là-bas, n'est-ce pas, Muscade ? Et faire rager mon régiment. » Et d'un coup d'œil, elle désignait quelques hommes qui les observaient de loin. Servigny lui répondit « Tant que vous voudrez, mademoiselle. » En lui parlant, il ne prononçait jamais « mademoiselle » par suite d'une camaraderie familière. Et Saval demanda « Pourquoi donc mademoiselle Yvette appelle-t-elle toujours son ami Servigny Muscade ?» La jeune fille prit un air candide. « C'est parce qu'il vous glisse toujours dans la main, monsieur. On croit le tenir, on ne l'a jamais. » La marquise prononça d'un ton nonchalant, suivant visiblement une autre pensée, et sans quitter les yeux de Saval. « Oh, ces enfants sont-ils drôles ?» Yvette se fâcha. « Je ne suis pas drôle, je suis franche. Muscade me plaît et il me lâche toujours. C'est embêtant, cela. » Servigny fit un grand salut. « Je ne vous quitte plus, mademoiselle, ni jour ni nuit. » Elle eut un geste de terreur. « Ah, non, mais non, par exemple, dans le jour, je veux bien, mais la nuit, vous me gêneriez. Il demanda avec impertinence, pourquoi ça? Elle répondit avec une audace tranquille, parce que vous ne devez pas être aussi bien déshabillé. La marquise, sans paraître émue, s'écria, mais ils disent des énormités, on n'est pas innocent à ce point. Et Servigny, d'un ton railleur, ajouta, c'est aussi mon avis, marquise. Yvette fixa les yeux sur lui et d'un ton hautain, blessé, vous venez de commettre une grossièreté. Ça vous arrive trop souvent depuis quelque temps. Et s'étant retournée, elle appela, chevalier, venez me défendre, on m'insulte. Un homme maigre, brun, lent dans ses allures, s'approcha. Quel est le coupable? Dit-il avec un sourire contraint. Elle désigna Servigny d'un coup de tête. C'est lui. Mais je l'aime tout de même plus que vous tous, parce qu'il est moins ennuyeux. Le chevalier Valréali s'inclina. On fait ce qu'on peut. Nous avons peut-être moins de qualité, mais non moins de dévouement. Un homme s'en venait, ventru de haute taille à favoris gris, parlant fort. Mademoiselle Yvette, je suis votre serviteur. Elle s'écria, ah, oh, monsieur de Bellevigne! Puis se tournant vers Saval, elle présenta. Mon prétendant en titre, grand, gros, riche et bête, c'est comme ça que je les aime. Un vrai tambour-major de table d'hôte. Tiens, mais vous êtes encore plus grand que lui. Oh, comment est-ce que je vous baptiserai? Bon, bien, je vous appellerai monsieur de Rhodes, fils, à cause du colosse qui était certainement votre père. Mais vous devez avoir des choses intéressantes à vous dire. Vous deux par-dessus la tête des autres. Allez, bonsoir. Et elle s'en alla vers l'orchestre, vivement, pour prier les musiciens de jouer un quadrille. Madame Bobardi semblait distraite. Elle dit à Servigny d'une voix lente pour parler. Vous la taquinez toujours, vous lui donnerez mauvais caractère et un tas de vilains défauts. Il répliqua. Oh, vous n'avez donc pas terminé son éducation? Elle eut l'air de ne pas comprendre, et elle continuait à sourire avec bienveillance. Mais elle aperçut venant vers elle un monsieur solennel et constellé de croix, et elle courut à lui. Oh, prince, prince, quel bonheur! Servigny reprit le bras de Saval et l'entraînant. Voilà le dernier prétendant sérieux, le prince Kravalov. N'est-ce pas qu'elle est superbe? Et Saval répondit, moi, je les trouve superbes toutes les deux. La mère me suffirait parfaitement. Servigny le salua. À ta disposition, mon cher. Les danseurs les bousculaient, se mettant en place pour le quadrille, deux par deux. Et sur deux lignes face à face. Maintenant, allons voir un peu les Grecs, dit Servigny. Et ils entrèrent dans le salon de jeu. Autour de chaque table, un cercle d'hommes debout regardait. On parlait peu, et parfois un petit bruit d'or jeté sur le tapis ou ramassé brusquement. Mêlait un léger murmure métallique au murmure des joueurs, comme si la voix de l'argent eût dit son mot au milieu des voix humaines. Tous les hommes étaient décorés d'ordres divers, de rubans bizarres, ils avaient une même allure sévère avec des visages différents. On les distinguait surtout à la barbe. L'Américain, roide avec son fer à cheval, l'anglais hautain avec son éventail de poils ouvert sur la poitrine, l'espagnol avec sa toison noire lui montant jusqu'aux yeux, le romain avec cette énorme moustache dont Victor Emmanuel a doté l'Italie, l'autrichien avec ses favoris et son menton rasé, Un général russe, dont la lèvre semblait armée de deux lances de poils roulés, et des Français à la moustache galante révélaient la fantaisie de tous les barbiers du monde. Tu ne joues pas? Demanda Servigny. Non, et toi? Jamais ici. Veux-tu partir? Nous reviendrons un jour plus calme. Il y a trop de monde aujourd'hui, on ne peut rien faire. Allons. Et ils disparurent sous une portière qui conduisait au vestibule. Dès qu'ils furent dans la rue, Servigny prononça: Eh bien, qu'en dis-tu? C'est intéressant, en effet. Mais j'aime mieux le côté femme que le côté homme. Parbleu! Ces femmes-là sont ce qu'il y a de mieux pour nous dans la race. Trouves-tu pas qu'on sent l'amour chez elles comme on sent les parfums chez le coiffeur? En vérité, ce sont les seules maisons où on s'amuse vraiment pour son argent. Et quelles praticiennes, mon cher! Quels artistes! As-tu quelquefois mangé des gâteaux de boulanger? Ça a l'air beau et ça ne vaut rien. L'homme qui les a pétris ne sait faire que du pain. Eh bien, l'amour d'une femme du monde ordinaire me rappelle toujours ces friandises de Mitron, tandis que l'amour qu'on trouve chez les marquises Orbardi, vois-tu, c'est du nanan. Oh, elles savent faire les gâteaux, ces pâtissières-là. On paie 5 sous chez elles, ce qui coûte 2 sous ailleurs, et voilà tout. Saval demanda: Quel est le maître de séance en ce moment? Savigny haussa les épaules avec un geste d'ignorant. Oh, c'est rien. Le dernier connu était un pair d'Angleterre, parti depuis 3 mois. Aujourd'hui, Wall doit vivre sur le commun, sur le jeu peut-être, sur les joueurs, car elle a des caprices. Mais dis-moi, il est bien entendu que nous allons dîner samedi chez elle à Bougival, n'est-ce pas? À la campagne, on est plus libre. Et je finirai bien par savoir ce qui va être dans la tête. Saval répondit: Bon, je ne demande pas mieux, je n'ai rien à faire ce jour-là. En redescendant les Champs-Élysées sous le champ de feu des étoiles, ils dérangèrent un couple étendu sur un banc, et Savigny murmura: Quelle bêtise et quelle chose considérable en même temps! Comme c'est banal, amusant, toujours pareil et toujours varié, l'amour. Et le gueux qui paye 20 sous, cette fille, ne lui demande pas autre chose que ce que je paierais 10 000 francs à une Obardie quelconque, pas plus jeune et pas moins bête que cette rouleuse peut-être, quelle niaiserie! Il ne dit rien pendant quelques minutes, puis prononça de nouveau: C'est égal, ce serait une rude chance d'être le premier amant d'Yvette. Ah oui, pour cela, je donnerais. Oh, je donnerais. Il ne trouva pas ce qu'il donnerait. Et Saval lui dit bonsoir, comme ils arrivaient au coin de la rue Royale.